Allô tout le monde, mon nom est Sylvain D. Desjardins et bienvenue sur mon podcast Envoye donc. Envoye donc, on reçoit des artistes ou des gens d'affaires qui nous racontent des moments clés de leur vie auxquels ils ont décidé d'embarquer dans des projets en disant simplement « Envoye donc, regarde, je le fais, j'embarque » et ça a changé leur vie de façon phénoménale. Cette semaine, on reçoit Charles Deschamps qui est un des cofondateurs du Bordel Comedy Club qui va nous raconter son parcours du moment où il faisait du sport extrême de BMX jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a des belles histoires, c'est un très bel épisode, je suis très heureux de l'avoir reçu. Donc, bonne écoute tout le monde.
Merci d'être venu.
Ça fait plaisir d'être là, content.
Première question.
Shoot.
Pourquoi t'as accepté l'invitation?
Pourquoi j'ai accepté l'invitation? Ben, un, je t'aime bien. Ça fait plusieurs fois qu'on se croise, puis que sur des événements, sur des shows, je t'aime bien. Puis jaser d'entrepreneuriat, jaser du mot, c'est un peu la seule chose que j'aime dans la vie.
Oui.
Pas la seule chose, mais une chose que j'aime beaucoup. Fait que c'est un plaisir de venir ici.
Écoute, je suis super content de te recevoir. Écoute, on va commencer. On va y aller peut-être en graduel, OK? En graduel, rapidement. T'es un gars de sport extrême.
J'étais.
Non, mais.
J'ai plus la shape, mais j'étais, ouais.
Shape ou pas, dans ta tête, ouais. Ça reste extrême, je suis convaincu. T'aimes ça de te shooter à l'adrénaline.
C'est un besoin dans ma vie qui est très prenant.
C'est un besoin qui est prenant. Ben, c'est cool, j'aime mieux.
C'est cool, mais c'est dangereux. T'es aimer, passer proche de se péter la gueule, c'est le fun comme vie, mais des fois, ça donne que tu te pètes la gueule parce que t'aimes ça passer proche.
Ouais.
Fait que c'est le côté négatif de la
chose. C'est juste que t'as des séquelles.
J'essaie de pas trop les montrer, mais ouais, je suis un peu magané de la vie.
T'es-tu, genre, quand tu te lèves le matin, c'est pénible ou c'est gérable?
En fait, c'est quand que je fais du sport, que là, je suis plus capable de rien faire, là, j'ai des problèmes de genoux, de poignets, d'épaule. Mais les commotions cérébrales font que j'ai beaucoup de problèmes. Je cherche mes mots. Comme là, juste, là, j'ai problème d'attention, j'ai problème de mémoire. Puis je pense que ça va aller de pire en pire, mais j'essaie de le cacher, là.
Oh, ben écoute, ça peut gérer.
C'est ce ton nom déjà, c'est quoi?
Ah, je sais pas. Non, je m'en souviens pas. Puis, ben écoute, on va starter à patente.
OK.
Quand tu étais jeune, OK? Ouais. Tu étais un gars de quelle ville, toi?
Montréal, Rosemont, petite patrie, born and raised.
Full Montréal, à l'intérieur de ça. Puis, qu'est-ce qui t'a. On va commencer. Qu'est-ce qui t'a amené dans le sport extrême? Il y a un moment dans ta vie.
J'ai vu un gars qui s'appelle Jimmy Run, qui est un Canadien, faire du BMX ou X-Game à RDS.
OK.
Puis c'était décidé, c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai demandé à ma mère si on peut aller m'acheter un BMX, elle me dit non. Là, on a attendu jusqu'à ma fête, on est allé m'acheter un BMX Super Cycle chez Canadian Tire.
Ah oui?
Puis c'était parti. C'était décidé que j'allais faire ça dans la vie, j'avais 11 ans, puis...
Super Cycle, c'est du Canadian Tire.
Chromé, là. C'était pas un bon BMX. Puis je l'ai brisé en pas grand temps. Pendant 6 mois, il a fallu m'acheter un vrai BMX.
Ouais, parce qu'ils sont pas faits pour rider pour de vrai.
Ça. Ouais, puis je ridais pour de vrai. Là. Je l'ai magané. Là. Le magasin de vélo à côté de chez nous, il m'aimait pas. Là.
Ah oui?
Il était comme, arrête de le briser. Là.
Ben, il devrait t'aimer. Tu donnais de l'argent en masse.
Ben, tu sais, c'est pas. Oui, mais. Quand t'es pas avec des problèmes que t'es pas capable de réparer, t'es mieux de passer, charger 20$ pour une réparation qui prend 5 minutes que de charger 50$ pour passer comme sacré pendant 4 heures sur un vélo.
Il juste dessouder le vélo, genre.
Ouais, c'est ça. Je l'ai vraiment magané.
Puis écoute, quand t'as starté ça c'est où tu commençais à faire ton.
C'est au premier Taz, je me suis inscrit à un cours là-bas avec un gars qui est devenu mon idole.
OK.
Il s'appelait Pedro, c'était un professionnel, lui, il faisait ça dans la vie, puis c'était mon idole, je voulais être ce gars-là.
OK.
Puis j'ai fait ça, je me sauvais la nuit pour aller faire du BMX.
T'es sérieux?
Ouais, mes parents pensaient que j'étais couché, je débarrais la porte de la cage, je m'allais faire du BMX toute la nuit, j'avais puis je dormais durant mes cours.
Cool, ben t'étais passionné, ça.
J'étais vraiment passionné. Puis j'étais bon à l'école, fait que ça paraissait pas trop dans mes notes.
Pas. Non. T'avais pas encore eu de commotion?
J'avais pas encore eu de commotion. Mais ma première commotion, ça n'a pas été long. Je l'ai eu la première journée que j'ai eu mon premier vrai BMX.
T'es pas sérieux?
Ouais. Et c'est quand même drôle comme anecdote. Je me suis pété la gueule vraiment solide. Fracture de la mâchoire, dent brisée, pointiture sur le menton, fracture du poignet. Puis quand je me suis réveillé de ma commotion, je cherchais mon ancien vélo. Parce que j'avais oublié que j'avais été acheté ce vélo-là. Okay. Puis là, ma mère était dans le skatepark. Elle était comme, voyons, on va pas que ton vélo, on s'en va à l'hôpital. Pas que ton vélo, on va à l'hôpital. Puis je cherchais mon vélo, je le trouvais pas. Parce que je cherchais l'ancien. Puis mais non, c'est lui ton vélo, on t'a l'acheté aujourd'hui.
OK, t'avais comme.
J'avais oublié.
Là. Une marche, là.
Ouais, j'avais skippé cette époque-là. Puis quand j'ai vu mon nouveau vélo, je me suis mis à pleurer tellement que je le trouvais beau. J'avais des dents pétées, la mâchoire fracturée. Puis je pleure parce que je trouve mon nouveau BMX super beau. Genre. Ma mère capotait. Puis mes parents ont vraiment été cool là, de me laisser aller là-dedans temps plein. Là.
Oui, parce que j'ai des enfants. Puis quand ils s'orientent vers quelque chose qui est dangereux de se fendre en deux. Je les empêche pas, mais je me dis,
pour moi, c'est un gros sujet de chicane avec ma blonde parce que pour moi, tu sais, je veux pas forcer mes enfants à aller faire du BMX, mais j'aimerais ça qu'il voit c'est quoi, qu'il l'essaye à la limite. Puis pour elle, c'est comme, non, Charles, regarde-toi. Je veux pas que mes enfants finissent comme toi. Puis je suis comme, c'est un peu méchant, mais moi, j'aimerais vraiment ça, au moins qu'il l'essaye.
Ben, écoute, moi, j'en faisais, mais vraiment plus amateur. Moi, j'avais genre le vélo distribution consommateur. Là, j'étais un peu plus vieux.
Puis... Je me rappelle des magasins de distribution consommateur.
Moi, j'allais commander mon vélo. Mon premier BMW, je l'ai acheté moi-même. Mes parents étaient trop... peut-être trop cheap ou je sais pas quoi. Puis moi, j'ai commencé à travailler à 11 ans pour me payer mon premier vélo. Puis mon premier, je l'avais acheté moi-même quand distribution consommateur, je l'attendais après le rouleau qui arrivait. Puis comme de raison, la première affaire que j'ai fait du wallet avec, mais j'avais oublié d'attacher à roue en avant.
Fait que ça va le parti.
Ma première découverte, c'était l'asphalte. Puis, mais ben, je comprends que les parents, ils ont peur que leurs enfants se laissent, mais n'empêche, là, tu t'avais broyé, t'avais les dents pétées dans la gueule, t'étais en sang, puis tu broyais parce que tu trouvais ton nouveau vélo tellement beau.
Tellement beau, puis là, à cause de la fracture de la mâchoire, les médecins m'avaient dit, je pense que c'était 4 mois sans faire, puis ma mère pensait que j'allais abandonner. C'est comme, là, il s'est fait vraiment mal, puis tout ce que je voulais, c'était remonter sur mon vélo, puis la journée que des 4 mois, j'étais déjà sur mon vélo, puis je recommençais, puis ça a vraiment été ça, ma vie, jusqu'à temps que j'aille 24 ans. Là, les médecins, en fait, comme les commotions, ça va faire. Là.
T'as atteint ta limite.
Voilà, j'ai atteint la limite. La prochaine pourrait être la dernière, ce qui va pas.
Ah oui, oui.
Oh, j'ai bossé le budget.
Donc, tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas rien faire.
Non, je ne peux pas me battre. Je ne me suis jamais battu dans la vie.
Tu ne peux pas être dormant dans ton propre bar.
Non, je ne pourrais pas être dormant. Mais c'est vrai, sans joke, c'est. Puis, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup des commotions cérébrales. Ouais. Je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Puis là, plus qu'on voit des études sortir là-dessus, plus qu'il paraît que ça cause la dépression, ça cause plein d'affaires. Ouais. Fait que c'est un de mes stress dans ma vie, puis j'essaie de pas trop y penser.
Bon, quand tu t'es occupé, j'ai l'impression que tu n'as pas le temps de t'attarder à tes problèmes vraiment. Puis, ben écoute, chaque personne peut gérer ça. Mais comment de fois tu t'es pété la gueule? Mais y a-tu des fois que pendant que tu tombais, là, pendant la chute, pas à la chute, mais pendant la chute, tu disais ah, mauvaise idée ou mauvais move ou j'aurais dû faire ça?
Souvent, ça se passe super vite, ouais. Mais il y a une des barques que je me rappelle que. C'était incroyable. Je faisais le show de la mi-temps des Alouettes. Okay?
Okay.
Puis il installe des jumps, puis il fait quand même noir. Il y a des spotlights. Mais je pars en backflip, mais à cause qu'il fait noir, j'ai mal calculé mes affaires et j'ai pas assez spiné.
Okay.
Sauf qu'il fait noir, je vois pas le jump, mais la foule s'est rendue compte avant moi que j'allais me péter à gueule. Fait que le monde crée des « oh » puis là, je suis « oh, oh, oh » puis là, j'ai pas tourné assez. La roue d'avant a coincé sur la fin du jump puis je me suis ramassé à terre. Je me suis pas blessé, mais juste le feeling d'avoir 20 000 personnes qui font « oh, oh » puis là, tu fais « oh, oh » Ça, c'est vraiment la débarque que je me rappelle le plus clairement dans ma tête de comme ça va mal se passer.
Le genre d'affaire que s'il y avait eu des caméras GoPro qui filment le monde, disent « oh » avant puis toi qui tombes, t'arrêtais vraiment.
Peut-être que j'aurais même pu me voir sur l'écran. Genre.
C'est vrai, ça paraît que les gens ont anticipé ta chute. Puis, généralement, comment de temps après une chute, tu ressautais sur le
ah, j'avais un style très cascadeur, puis très, je m'en fous, très punk.
Okay.
Fait que, tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'étais à Trois-Rivières, j'ai pas eu une commotion cérébrale encore. Puis j'appelle mon père, j'ai genre 15 ans, je suis comme « père, je sais pas où ce que je suis ».
Okay.
Peux-tu venir me chercher? Il me fait comme, ben, t'es à Trois-Rivières, je m'en viens te chercher. Mais là, c'est Montréal, Trois-Rivières, c'est 1h30 de char. Fait que j'ai retourné faire du BMX en attendant que mon père arrive. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des affaires que, tu sais, comme tu te brises un poignet, tu te brises une jambe, ouais. Tu peux pas, mais, tu sais, je me suis déjà duct-tapé le poignet parce qu'il était brisé pour continuer à en faire. Là,
ça marche pareil.
Ça fait, ouais, mais c'est là, douloureux. Il fait encore mal aujourd'hui à cause de. J'ai pas fait attention.
Tu l'as duct-tapé, mais tu l'as pas laissé guérir.
Non, non, j'ai pas fait. Je disais pas la vérité à ma mère sur quand le médecin me disait arrête pour tant de temps. Je disais, oh, il y a du 4 jours.
Ouais. Ouais. Toi, t'as reparti, mais lui, t'avais dit 4 mois.
Oh, ouais, j'ai vraiment pas fait attention.
Si c'était 4 jours, t'en repartais tout de suite.
Puis à un moment donné, c'est ça qui est fou, c'est que, tu sais, à un moment donné, ça devient ton métier. Mm. Puis quand t'es 3 mois blessé, tout le monde augmente de niveau sauf toi. Fait que là, tu deviens compétitif, puis là, tu veux pas perdre. Fait que tu recommences trop rapidement. Fait que tu te reblesses trop rapidement, puis dans un cycle de. T'es jamais au 100% de ta forme. Fait que c'est. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais eu une plus longue carrière si j'avais fait attention.
C'est ça, hein? Tu vois toute ta gang, tes autres qui évoluent parce qu'ils continuent sans arrêt. Ils se blessent pas? Ils se blessaient plus moins? Ou...
Mais c'est que c'est pas juste mes amis, c'est au niveau mondial. Là. Ouais, fait que ouais. Là, tu vois le monde augmenter. Fait que tu sais, c'est un an, une saison. Une année, c'est juste un an. Fait que c'était 6 mois off. Le monde, on travaille 2 fois plus
c'est
que
combien
toi.
Une année de compétition en BMX? C'est combien de compétitions environ?
Il y en a partout dans le monde à l'année. Fait que tu sais, t'as comme. Pour moi, le lancement de la saison, c'est la grosse compétition à Toronto au mois de mars. Puis après ça, t'avais l'été, t'en as plusieurs. tu te promènes un peu partout. Puis là, quand l'hiver arrive, moi, c'était plus la saison d'entraînement parce qu'il y, y a moins de compétition vu que c'est l'hiver ici.
Ouais.
Fait que c'est, je veux dire que c'est de mars à septembre.
C'est-tu coûteux d'aller participer aux compétitions ou t'étais sur.
Ah, c'est tellement pas payant cette affaire-là. J'avais des commanditaires, genre je payais pas mes vélos, je payais pas mon linge, ces affaires-là. Mais ce qui est payant en BMX, à, au niveau que j'étais à l'époque, c'était surtout les spectacles. Je faisais beaucoup de spectacles en tournée. Des festivals, puis là, t'arrives avec ton jump, puis tout ça. Mais les compétitions, c'est pas super payant. Mais les frais d'inscription, tu sais, ça peut être 100$, t'inscris à une compétition, mais tu sais, faut que tu payes ton, ton voyage dans ton hôtel, puis tout ça. C'est que souvent, le commentaire peut t'aider à ça.
Okay.
Mais c'est, je faisais plus mon argent que les spectacles, avec les compétitions. Parce que, mettons, ma médaille de bronze au X Games de Chine m'a donné 500$ US, genre. Au 1500, je m'en rappelle pas.
Bronze au X Games de Chine. Ouais. Ça t'a donné 500$.
Ou 1500, je m'en rappelle pas. C'était genre ouais, vraiment.
Pas un gros montant.
Ça payait même pas le billet d'avion, là.
Puis, mais t'avais un commanditaire là-bas qui payait tes frais.
J'habitais là-bas pendant ce temps-là.
Ok, t'habitais en Chine, c'est vrai. T'habitais en Chine. Tu parles-tu mandarin?
J'en ai perdu beaucoup.
C'est comme ni hao, ni sao, ça, c'est correct.
Mais ben, plus que ça, là, j'ai déjà une blonde qui parlait ni français ni anglais.
Ah non, elle parlait juste mandarin.
Juste mandarin. Fait que j'étais correct, mais là, j'en ai perdu comme ça. Je l'ai étudié un peu à l'université, j'ai trois quarts d'un certificat en chinois.
Ah oui?
Qui me sert à rien.
Ça sert à rien. Ben, ça va t'en servir un jour, je suis convaincu.
Je pense pas.
L'humour en chinois. Mais quartier chinois à Montréal, va pratiquer ça.
Ben, honnêtement, c'est que, tu sais, quand tu penses à ça, un Louis-José Hood vend 300 000 billets dans une population de 6 millions.
Ouais.
Tu sais, imagine être pas pire en Chine, là, t'as une population d'un milliard.
C'est fou, hein?
T'sais, un open mic près dans un stade, là, c'est fou, là. Mais je suis pas assez bon en mandarin.
C'est pas assez bon? Ou tu serais-tu game de.
Je serais même pas game d'essayer. Ben, peut-être un jour faire un 5 minutes, mais vraiment d'aller essayer de faire carrière là-bas.
T'es pas carrière là-bas, juste le thrill de le faire.
Le thrill, je l'essayerais une fois.
Tu sais, en quartier chinois, on fait un open mic là, puis c'est toi qui l'anime ou whatever, mais en chinois.
En même temps, l'humour, c'est tellement. Tu sais, comme. C'est tellement des virgules, des mots que.
C'est vrai.
Je serais curieux. Puis même, il n'y a pas beaucoup de stand-up en Chine. En fait, je pense qu'il n'y en a même pas. Tu as des comedy clubs pour les expatriés, puis en anglais. Ouais. Je pense qu'il y en a même en français, même qui joue là-bas.
Ouais.
Mais je pense qu'il n'y a pas tant de. Parce que tu sais, tout est super checké là-bas.
Ouais, je
sais. Fait que t'as pas full le droit de dire des affaires controversées. Fait que
tu te fais gonner en sortant du show.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est. Hey, tout le monde, on est full d'accord avec le gouvernement. Hein? Ouais, yeah! Fait que tu sais, ça ne fait pas du stand-up écœurant.
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis, écoute, après ça, donc, toi, tu t'es shooté pendant l'adrénaline, ouais. Au défi, pendant toutes ces années-là. En faisant du BMX. Après ça, à un moment donné, t'arrives à un moment, ben, t'as-tu fait d'autres choses que BMX? As-tu fait du skate ou.
Je faisais beaucoup de. Ben, juste du BMX, j'ai gossé sur. Je suis capable de faire de l'unicycle, du skate un peu, puis du rollerblade. Je suis capable du vélo de montagne. J'ai même mis des commanditaires en vélo de montagne. Okay. J'ai fait deux compétitions dans ma vie. Ouais. Mais c'était vraiment le BMX. Mais ma mère, ça la stressait beaucoup que je fasse ça. Fait que j'ai essayé de rester à l'école tout le long de ma carrière.
OK. OK.
Fait que j'ai eu trois quarts d'une technique en gestion de commerce, puis trois quarts d'un certificat en chinois. Que j'ai jamais fini.
T'as dit trois quarts, mais c'est
que. j'ai pas fini. Il faudrait que j'ai fait 10. C'est pas. J'aimerais ça avoir un diplôme universitaire.
Ouais.
Il me servirait à rien. Mais
ben, juste... Non, ça sert toujours un peu à de quoi. Non? Personnellement, je pense que ça sert. Le chinois va te servir un peu moins là. Peut-être, mais sur retraité.
Peut-être. Mais ça, ce qui me gossait avec le certificat chinois, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde qui s'inscrivait au cours.
Ouais.
Fait que pour finir, le certificat, c'est le nom du certificat, c'est langue et culture asiatique.
Ouais.
Pour avoir tous mes crédits, il fallait que je prenne des cours de japonais. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde en chinois avancé.
Okay.
Fait que là, j'étais comme, j'apprendrai pas le japonais juste pour dire que j'ai un diplôme. Là.
OK, il y avait pas assez de monde qui voulait apprendre le chinois ici.
Ouais.
Ben, c'est à Montréal que ça se passait.
Oui, c'était à l'UQAM. Puis, vu que c'est langue et culture asiatique, tu as des cours de sur le cinéma asiatique, tu as des cours sur la culture, sur, tu sais, comme plein d'affaires par rapport à la Chine puis par rapport à l'Asie.
Ouais.
Mais il me manquait des crédits, puis il n'y avait plus de cours de langue qui étaient assez remplis. Fait que là, j'étais obligé de prendre d'autres cours par rapport.
Tu payes la prof à toi tout seul, vous savez, je suis tout seul. Parce que moi, j'avais des. Quand j'étais allé à Shanghai pour refaire dans le temps, puis j'avais un monsieur qui vit. Ben, une gang que j'ai rencontrée qui vivait là, des Québécois, pour apprendre à parler la langue. Eux, ils me parlaient de la complexité.
C'est tellement moins pire que ce qu'on pense, je trouve.
Ouais.
Tu sais, comme l'anglais est vraiment plus simple que le français,
ouais.
Le chinois est plus simple que l'anglais.
Ah oui?
Oui, je veux dire, comme, tu sais, mettons un répondeur,
ouais.
T'es pas obligé d'apprendre le mot répondeur. Faut que tu saches le mot machine de télécommunication puis réponse.
T'as trois mots pour
t'as en trois dire. Mots, mais tu sais, tes trois mots-là, ils servent dans plein d'affaires.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est tous des mots très, très de base. Tu veux dire un verbe au futur, tu dis juste le mot futur. Tu veux dire un verbe au passé, tu dis juste le mot passé. Tu veux dire féminin, tu sais, mettons, j'ai des enfants, puis tu dis, j'ai un gars, j'ai une fille, tu fais juste dire, j'ai enfant masculin, j'ai enfant féminin. Il n'y a pas de...
Okay.
Tout est super simple, tout est okay, super basic. Là.
Parce qu'il me parlait, c'était l'intonation.
Oh, oui, les tons, le même mot peut dire quatre affaires différentes selon le ton, comme, tu sais, maman puis cheval, c'est le même mot.
OK. Mais, c'est quoi le maman?
Ma, puis ma, c'est... Je pense, là, de mémoire, c'est loin.
De toute façon, je pense pas qu'il y a... Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un
avec peut-être...
qui va me challenger, il va challenger ça.
Mais, ouais. Tu sais, comme si tu dis c'était l'anniversaire à ma mère hier, le monde va comprendre, personne va penser que c'est l'anniversaire à mon cheval hier.
Ouais.
Tu sais, le monde...
à moins qu'il y ait une écurie, là, il y a des chances.
Je te dirais que c'est quand tu connais pas les tons, t'as plus l'air de parler avec un gros accent dégueulasse que ouais. Vraiment de... D'avoir de la misère à se faire comprendre.
Tu as l'autre personne de l'autre côté qui dit écoute, il sort sa main cheval, mais je sais qu'il parle de sa mère, c'est correct.
Ouais, c'est un peu insultant pour ma mère, mais.
C'est insultant pour la mère. Parce que c'est ça, moi, j'avais pris. Quand j'étais à la Shanghai, j'avais pris l'avion, j'étais allé là, pas de traducteur, rien. Moi, mon fournisseur, il m'accueillait, puis je me suis dit, garde, ça va être correct. Puis en arrivant à l'aéroport, moi, je me suis dit, écoute, il y a du monde qui va pouvoir m'aider. Puis finalement, personne ne parle anglais.
Non, au début, moi, je t'ai dit là, ça fait quand même longtemps. J'avais ouais. 17 ans la première fois. Fait qu'on parle de 2004,
ouais.
2005. Fait que j'avais pas d'iPhone avec traducteur. Fait que je m'étais acheté un Polaroid, puis je prenais des photos des affaires que j'ai besoin. Fait que là, je m'étais dit une photo des toilettes, une photo
mais
de
pas
la bouffe.
Sérieux?
Ouais, c'est comme ça que je me débrouillais, là.
T'avais une pile de photos Polaroid
que je traînais avec moi.
C'était ton langage.
Pour me débrouiller
pouvoir
au début.
Te démerder. C'est ouais. Cool, ça. Ben, c'est vraiment hot.
Ben,
ça
doit, t'as pas le choix.
T'avais-tu beaucoup de photos?
Ah, une dizaine. Là.
Okay.
Mais après ça, comme, tu connais les mots comme toilette. Comme, t'as pas le choix d'apprendre les mots, t'as débrouillé à la base.
Tu mettais-tu le mot sur ta photo?
Ben, sur la photo, je le vois.
Ben non, je sais, mais toi,
pour
le
l'écrire
dire,
après?
Pour le dire?
Non. Avec, j'aurais dû le faire.
Je dis ça niaiseux.
Ben, j'avais un petit cahier avec moi, puis le premier mot que tu apprends, c'est quoi ça? Puis là, ouais. Tu dis c'est quoi ça? Puis là, tu le notes, tu l'écris comme tu penses, puis ouais. Tu l'apprends, tu croches de même.
Ben, c'est bien drôle, ça. C'est parce que moi, au début, je me disais, il va arriver avec un esprit de catalogue.
Ah oh, non,
une
j'avais.
Catégorie pour dire, bon, okay, c'est tout ce qui est relié à la salle de bain. OK, les sorts sont. Ah ouais.
Mais il y a quelque chose qui est tellement le fun. T'sais, la Chine coûte pas cher, puis je te dirais qu'avoir de l'argent règle beaucoup de problèmes. Tu sais, comme, mettons, moi, ce que je faisais, j'avais une journée de congé par semaine là-bas. Je prenais le métro, je débarquais quelque part. Où est-ce que ça me tentait? Puis là, je voyais les magasins, j'essayais des restaurants. Puis après ça, je sais même pas comment demander, il est où le métro parce que je me suis perdu. Fait que tu prends un taxi, puis ça me coûtait 25$ à revenir chez nous. Mais tu sais, j'avais découvert la ville.
Ouais.
Mais tu sais, quand tu as moins d'argent, c'est plus. Là, tu es obligé, tu es limité.
T'es limité. Mais je me rappelle quand je suis allé encore là à Shanghai, puis je suis arrivé à l'hôtel. Ben, premièrement, on rentre à l'hôtel d'aéroport, ça a pris une science parce que le chauffeur de taxi m'amenait totalement dans une autre direction.
Ah, puis il essaye de te grosser.
Puis que moi, il y avait le TV Tower à Shanghai, puis là, moi, je savais que par rapport au TV Tower, je devais être à peu près dans ce coin-là, puis lui, il s'en allait dans une autre direction. Puis là, j'essayais d'y expliquer, tu sais. Puis encore là, il n'y avait pas de téléphone intelligent encore dans ce temps-là. J'avais mon petit cric de livre que je m'étais acheté avec des phrases.
Oh.
Puis j'essayais de baragouiner quelque chose. Je faisais des signes que non, c'est pas là qu'on va. Finalement, on s'est rendu, mais ça coûtait pas tant cher. Les taxis étaient
vraiment pas cher. Mais la meilleure anecdote, c'est mon petit frère. Okay? Lui, il est venu en faire du sport. Mon frère aussi, c'est un gars du sport extrême. Ouais. Il venait en faire quoi pendant 6 mois?
Lui, il est encore.
Non, il est blessé, lui, il est magané. Puis lui, quand il était en Chine, on a passé devant un Walmart en taxi pour l'hôtel la première journée. Puis le lendemain, c'était « Hey, je vais aller m'acheter un vélo au Walmart. Je vais pouvoir me promener dans la ville, ça va être le fun. » Fait que pas un taxi. Puis là, tu sais, il écrit Walmart. C'est un peu compliqué, mais il se rend au Walmart, il s'achète un vélo. Il sort du Walmart avec son vélo, puis il est comme « Hey, j'ai aucune calice d'idée, comment revenir? » Tu sais, comme, t'es à l'autre bout du monde. C'est écrit en mandarin partout. Tu parles pas un mot du mot mandarin, puis là, il est comme « Faut que j'en prenne un taxi, mais là, je vais m'acheter un vélo, qu'est-ce que je fais? » Fait que tu sais, il a braillé, puis après ça, il a réussi à payer un taxi avec sa carte d'hôtel, puis
ouais.
Il l'a suivi en vélo, puis il a réussi à se rendre finalement. Là.
Ben, tu sais, même au restaurant aussi, des fois, le restaurant de l'hôtel, il y avait. C'était tous des menus juste écrits en texte.
Ouais.
Il y avait pas encore l'image. Puis là, moi, je me promenais d'une table à l'autre pour essayer de voir ce que le monde mangeait. Puis là, j'ai dit, du poulet, là, je faisais à peau dans le restaurant. Tu sais, puis le gars me regardait en disant, demeuré, mais c'est demain que j'ai réussi à manger quelque chose que de l'allure. Là. Fait que j'ai peut-être mangé un oiseau qui n'aurait aucun rapport au poulet.
Ça se peut.
Mais ça valait du poulet. Fait que moi,
la bouffe est bonne. Fait que
ouais, la bouffe est bonne. Ben, bonne, mais la seule place, c'est ceux qui font manger sur le vélo.
Ah, moi, j'adore le street food, les affaires bizarres.
Non, mais, le gars, il a charcoal, mais il faisait genre 42, puis il attachait après ses poignets un sac d'épicerie avec de la viande dedans à 42 degrés Celsius.
Ah oh, oui, faut pas que t'aies peur d'être malade.
Là, il fait chauffer ça en arrière, il y a un petit barbecue, portatif, qui est à plein rack à basic, en arrière, un petit rack, mettre des
sacs. Des petits bâtons de viande à un Yoann.
Des petits bâtons de viande, c'est ça, exactement. Ou des patates, sorte de ringuin qui se font manger. Ça, c'était cool, ça. Fait que, mais combien de temps t'as passé en Chine?
J'ai passé un an à 17 ans, puis un 8 mois à 21 ans.
Ah, OK, un an à 17 ans?
Ouais.
T'étais pas majeur?
Non.
T'étais-tu seul là-bas?
Dans le fond, moi, je faisais des spectacles là-bas. On était quatre Québécois dans un parc d'attractions. On faisait des shows là, 6 jours semaine, 3 shows par jour.
Ah, oh, tu étais dans un parc d'attractions, puis vous étiez en show à côté.
Ouais.
Puis ce qui est cool, c'est que vous étiez avec des Québécois. Il y a aussi des Américains.
On n'était pas quatre Québécois, on était un Américain et 3 Québécois.
Okay.
4 Québécois? 4. Fait que 5 total.
Que vous n'étiez pas trop dépaysés en gang, vous.
Ouais, c'était cool, mais ce qui est weird, c'est que j'étais avec un gars de Loretteville, un gars de Sherbrooke, un gars du Saguenay, un Américain qui venait de Phoenix. Fait que je suis revenu avec un accent là, tellement weird, des expressions un peu partout, parce que c'est les seules personnes avec qui tu parles français pendant un an.
Ouais.
Fait que je suis revenu avec un gros accent dégueulasse. Mais ça a vraiment été un des plus beaux trips de ma vie.
Puis la deuxième fois, les huit mois?
Dans le fond, moi, c'était à Shenzhen, ça, qui est une banlieue d'Hong Kong, la première fois. Puis ils ont ouvert un autre parc d'attractions à Beijing.
La même compagnie.
Puis là, le gars qui s'occupait des shows-là m'a dit « S'attends-tu t'occuper des shows là-bas? » Okay. Fait que là, moi, j'ai engagé mon équipe, j'ai réglé les visas de travail.
Donc, tu as commencé à produire et à gérer des shows là?
J'avais 21 ans en Chine, oui.
C'est ton expérience à starter là, dans le fond.
Oui, ouais, je pense que ça a été une des meilleures expériences
en le booking, tout.
Oui, le booking de. Puis j'ai booké mon petit frère, puis j'ai booké des amis. Puis,
Ton frère, tu l'as fait venir en Chine?
Oui.
Puis c'est cool ça?
C'était très cool. On a vraiment un petit fun là-dedans. On s'est pogné beaucoup parce qu'on est deux frères, deux coqs.
C'est quoi l'écart d'âge?
On a 2 ans et demi.
Bon, mon frère, c'était.
Mais ça a été un beau trip, puis je suis content d'avoir vécu ça avec lui. Là,
tes parents étaient inquiets, qu'ils vous démolissaient.
Hey, pauvres parents, j'ai volé mon petit frère, je les ai laissés tout seuls, puis ils ont été à l'autre bout de la planète, puis on était deux jeunes pas fiables. C'est pauvre.
Tu es revenu tous les deux, tu te pétais.
Non, mais honnêtement, ça nous a fait du bien. Tu sais, ouais. Moi et mon frère, on a travaillé beaucoup dans les bars aussi. Puis là, ça a été un 6 mois comme de break de bar puis de faire du sport 6 jours semaine, 3-4 heures par jour. Hey, j'étais en shape. Je te montrais des photos de moi, tu me reconnaîtrais même pas. Là. J'ai 60 livres de moins.
Ah, ouais. C'est fou, hein?
C'est n'importe quoi.
Puis la compagnie, eux autres, dans le fond, c'est une compagnie qui existe encore probablement.
La compagnie, là, c'est pour moi, ça m'a fait... Tu sais, j'ai eu des rêves d'entrepreneuriat, tu sais, de grandiose, mais ça a été tellement décourageant parce que... Eux, la compagnie, OK, elle n'a pas le parc d'attractions, elle a la ville.
Hein?
Fait qu'ils achètent un bout de terrain, là, okay. Ils construisent une ville. Fait que là, ils ont un parc d'attractions. Le monde qui travaille pour le parc d'attractions leur paye des loyers. Les restaurateurs leur payent des loyers.
Ça, c'est mon rêve.
Ils sont achetés une game de Sim, là. C'est n'importe quoi. Puis, tu sais, on parle de multimilliardaires qui gèrent cette affaire-là. Puis, pour eux, c'est tellement. C'est un jeu, là.
Le dépanneur, l'épicerie, les tout maisons, tout est à eux autres.
Ouais.
Tout leur revient. C'est démentiel.
Puis tu donnes un salaire au gars qui travaille pour toi, mais il le dépense dans ta ville. Fait que tout te revient. Là. C'est
et
de l'argent.
Tu payes un coupon finalement.
Ben, oui, parce que il donne accès à une cafétéria aux employés. Fait que il te paye moins cher, mais tu
te déduis.
C'est ça. Fait que puis rencontrer ces gens-là, les boss de ça, qui sont quasiment des dignitaires du gouvernement. Puis t'es comme. T'es un petit cul de 21 ans, genre Canadien, puis eux sont tellement contents de recevoir un Canadien.
Ils sont respectueux envers le monde.
Les Canadiens sont tellement bien vus là-bas. C'est vraiment. Moi, j'ai chillé, OK, une soirée de temps avec le gars qui a fait le vélo de E.T.
T'es sérieux?
Ouais, l'usine, c'est un Japonais, mais tu sais, son usine est en Chine. Puis lui, là, il était tellement fier de sa fille qui étudie à Vancouver. Puis j'ai encore liste de ta fille qui étudie à Vancouver. Là,
il vit
fait...
avec.
Je me suis fait proposer de marier une fille.
Ah oui?
Ouais, on m'a offert 10 000 puis j'étais comme...
10 000 $? La fille, était-tu belle?
Elle était quand même mignonne, mais c'était genre la troisième journée que j'étais arrivé. Puis là, j'étais comme...
Tu dis, garde.
Moi, je sais pas.
100 000.
J'avais 17 ans, j'étais même pas dans l'âge de me marier.
Comment ils ont fait ça? Là? Ils te connaissaient de réputation ou whatever?
Ça fait des années. Faisait déjà 5-6 ans qu'il y avait des shows là-bas, faits par des Canadiens. Puis ils veulent que ce soit des Blancs qui fassent des spectacles de sport extrême. C'est super raciste, mais pour eux, c'est un sport américain. Puis...
C'est plus vedette. C'est plus grandiose pour eux autres d'avoir des étrangers que des
ouais. Alors, puis les Américains sont plus chers puis ont plus mauvaise réputation que les Canadiens. Fait que ça fait super longtemps que c'est des Canadiens. Puis c'est des gars que j'ai connus plus jeunes qui m'ont offert la gig à un moment donné. Là.
que si tu fais du vélo BMX, c'est en Chine que ça se passe. L'école va-t'en là-bas. En c'est fait, ça? C'est plus ça?
Ben, oui, puis non. Moi, je trouve que la Chine est un maudit beau spot parce que c'est comme les joueurs de hockey qui vont jouer en Russie parce qu'ils sont pas assez bons pour la Ligue nationale.
Ouais.
Fait que, tu sais, moi, j'ai fait des games de Chine parce que je suis pas assez bon pour faire les games aux États. Là. Tu sais, c'est un peu ça. Là.
Bon, écoute. C'est-à-dire, tu t'es trouvé ton change en masse là.
Oh, moi j'ai gagné. Là.
Mais je suis encore intrigué par l'histoire du 10 000 piastres. Comment ça s'est passé?
Ça, c'était weird, OK? Tu sais, le monorail à la ronde,
ouais.
Il y avait la même affaire. Je pogne le monorail pour m'en aller des spectacles jusqu'à la cafétéria.
Ouais.
Mais là, c'est que je suis pogné dans une cabine de 4 personnes, puis il y a un monsieur avec sa fille.
OK.
Puis là, il me dit, ah, t'es Canadien, puis là, on jase un peu. Puis il me dit, ma fille, t'as trouvé-tu cute? Puis là, je suis comme... Oui, tu sais, c'est malaisant, elle est à côté de moi.
Tu peux dire que c'était un
laidron. Puis elle était cute, tu sais, c'est malaisant, un père qui dit ça de sa fille. Je dis, oh, elle est super mignonne. Puis comme, mais toi, tu voudrais-tu la marier, puis aller au Canada? Je dis, ben, pas là. Puis il dit, ben, tu sais, je te donnerais genre un 10 000 US.
Voyons donc.
Puis là, comme j'avais hâte que ma station arrive à peu près, là, j'étais malaisé.
OK, j'étais dans le train.
On est dans le petit mode oreille.
Puis là, tu as fait cute, tu as 10 000 piastres.
Tu as 10 000, t'as marié. Parce que pour eux, c'est super tough de sortir de la Chine.
Ah ouais.
Rentrer au Canada, on dirait qu'il y a plus de perspectives d'avenir. Puis pour eux, c'est quelque chose. Fait que tu sais, ils m'ont offert ça. Puis là, je fais non.
Tu dis, pour 10 000, tu peux t'ouvrir un dépanneur.
Mais il peut même pas. Il faut qu'il arrive ici pour l'ouvrir.
C'est ça.
Mais ça, c'était assez space.
C'est vraiment space, c'est vraiment space. Ben, peut-être que ça aurait été une autre vie totale. Arrêté, ben, lui, tu connaissais-tu, monsieur?
Non, c'était un pogné dans le mode d'oreille avec un inconnu. Là.
OK, c'est même pas un gars qui travaille avec toi, qui connaît ton histoire.
Non, pas en tout. Là, genre,
il
voit un tata. Puis
marie ma fille, ah ouais, 10 000. Ça, c'est une drôle d'affaire.
C'est spécial, là. Tu sais, puis même, quand je te disais, j'ai eu une blonde qui parlait ni français ni anglais.
Ouais.
Elle,
en Chine.
Ouais. On s'est rencontrés, elle m'a donné son numéro de téléphone. On a eu une date avec un chaperon.
OK.
Qui était une de ses amies plus vieilles qui nous checkait pas qu'on... Enfin, je sais pas trop quoi. Puis à notre deuxième date, on s'est embrassés. Puis elle s'est mise à pleurer.
Voyons donc.
Puis là, je suis comme, pourquoi? J'ai-tu fait de quoi? C'est-tu trop rapide? Genre, tu peux t'embrasser? Puis elle est comme, non, tu comprends pas. C'est que... Je sais que qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir du fun avec moi cet été, puis après ça, tu vas retourner au Canada, puis tu me marieras pas. Puis je suis comme, oh oui, c'est exactement ça. Là. C'est OK, tu peux pleurer, mais c'est...
On m'a fait 10 000, j'ai dit non, attends, t'as pas des miracles.
Mais pour elle, c'était comme, tu sais, ça me fait beaucoup de peine que tu ne vois pas un avenir certain là-dedans. Puis là, on a notre deuxième date. Là.
Ça doit être lourd, là-bas, les rencontres.
Mais ça dépend, parce que t'as du monde qui sont super américanisés. Ouais. Mais elle, tu sais, elle vient d'un village super pauvre, ouais. Vient travailler à Beijing pour faire de l'argent, pour envoyer de l'argent à sa famille.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est des valeurs très, très... conservatrice, puis pas le droit de faire l'amour avant le mariage. On n'a même pas fait l'amour. On a beaucoup chance ensemble. On était une couple de mois à se fréquenter.
Ça doit être décevant. Des fois, tu t'attends pendant 10 ans, puis tu te rends voir merde.
Mais tu sais, moi, je le voyais plus. Tu dis que c'était ma blonde. C'était plus une amie qu'on se tenait la main, puis qu'on frenchoyait un peu. Mais tu sais, c'était tellement cool de. Tu sais, elle était prof au primaire.
Ouais.
Tu sais, j'étais passé une journée à son école. Là, j'apprenais les additions en chinois avec les enfants. Tu sais, c'était un trip
c'est
de
cool,
fou. Là,
c'est vraiment cool.
Elle faisait, je pense, 400$ canadiens par mois.
Oh.
Non, même pas. Je pense que c'était comme 200. Vraiment pas beaucoup d'argent. Puis moi, j'étais payé cher. Fait que tu sais, pour elle, c'était le fun parce que je l'amenais manger dans des restaurants. Elle me faisait découvrir des restaurants le fun. On sortait. Puis tu sais, c'était pas non plus ma... Comment dire? J'étais pas son sugar daddy. T'sais, c'était une relation super respectée. Elle m'a acheté un cadeau de fête. Elle était super...
elle se privait de payer son loyer pour t'acheter un t-shirt.
Non, mais quelque chose qu'elle a fait elle-même. Elle était super cool. Puis elle était pas après mon argent.
T'sais. Non.
Mais
c'était sincère.
C'était sincère, mais c'était une super belle amitié de voyage romance d'été.
Oui, oui. Ben écoute, puis quand tu es revenu, t'as stagé. Mais là, quand tu es parti de la Chine...
Hey, je pense je vais te faire un résumé de mon histoire, comme ça. C'est tellement compliqué.
Vas-y. Okay.
BMX.
Yes.
Après ça, je suis revenu de la Chine parce que je voyais mes amis qui commençaient à se placer un peu plus dans la vie. Ça me stressait, fait que je voulais continuer mes études, finir mes études. On m'a demandé de retourner en Chine, puis j'étais comme, je vais y aller. Après ça... je travaillais dans les bars pendant que j'étais à Montréal pour payer les voyages, pour les compétitions, vu que les commanditaires ne payaient pas tant que ça. Quand je suis revenu à Montréal, la deuxième fois, je me suis occupé du TAS.
Oui.
Puis là, c'est là que les médecins ont fait comme stop le BMX. Faut que je me trouve une autre passion.
Qu'est-ce que
tu as
fait? Quand tu as stoppé, non, mais je sais que je vais t'interrompre. Quand tu t'es fait dire de stopper, là, t'as-tu vraiment.
J'ai braillé.
T'as braillé?
J'ai braillé. Mais tu sais, ma vie, là, j'avais 24 ans, faisait 14 ans que. Charles, c'était le gars de BMX.
Ouais.
J'avais pas d'autre passion, j'avais pas d'autre sujet de conversation, c'était le BMX. J'ai déjà une blonde qui me dit, Charles, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, t'sais, moi ou le BMX? Puis j'ai jamais voir que tu me demandes ça. c'est le BMX. Tu sais, puis tu sais, je me rends compte, ça se dit pas, là. Ouais, mais tu sais, je me rends compte 10 ans trop tard. Mais tu sais, c'est que là, dépression solide, puis je me suis ramassé à aller travailler dans les bars à temps plein.
Okay.
Puis j'ai découvert le floor bartending, tu sais, pitcher des bouteilles.
Ouais.
Je me suis trouvé comme ça, comme un petit hobby pour remplacer le BMX. Les bars ont pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie.
Ouais.
J'étais le gérant du Diable Vert, qui était une grosse discothèque. Je dis discothèque, ça me sent vieux.
Non,
un gros club.
Ah, un club, ouais.
Puis à moi, j'étais plus heureux. Je donnais ma démission. Puis là, j'ai plus le BMX, j'ai plus les bars, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Puis c'est là que je suis passé devant le jockey, qui était le Jockey Club Brassade.
OK.
Puis j'ai fait un offre d'achat dessus.
Ah oui, oui.
Puis là, le jockey a commencé.
Il était ça avant?
Non.
Ah, il était même pas avant.
Regarde, là, c'est un podcast d'entrepreneur, c'est le pays beau d'entrepreneurs au monde. Je passe devant le bar, je suis un peu cocktail, je reviens d'une soirée. Et il y a une pancarte allouée.
Oui.
Je rentre dans le bar, je suis comme, le bar est-tu alloué? Non, c'est les appartements en haut. Puis, ah, il est-tu à vendre? Je dis, hey, non, mais tu peux parler au propriétaire. Je rencontre le propriétaire la semaine d'après, je fais une offre. Je sais même pas combien ça vaut un bar.
C'est pas
j'ai
que ça aucune vaut. T'as peut-être payé trop cher ou tu sais pas.
Non, j'ai vraiment payé pas cher, mais okay. Je l'ai su par après.
Okay.
Puis, c'est que là, j'ai appelé mon meilleur ami. Je suis comme, tente-tu d'ouvrir un bar? Fait comme, ah, ouais, un jour. Comme, non, genre, le mois prochain. Là. Puis, c'est parti de même. Puis, ça a l'air con, mais l'adresse du bar, c'est ma date de fête.
T'es sérieux?
Puis, j'étais comme, c'est un signe.
C'est
vraiment le B-move d'entrepreneur. Puis, j'avais pas une estienne. Il me restait 3 000$ dans mon compte de banque. Là. J'avais pas d'argent. J'avais. Puis, tu sais, j'ai menti.
C'est quoi ta mise de fonds? Tu dis, pas de mise de fonds.
Regarde, la vérité, c'est qu'on a acheté le bar 20 000, 5 000 en un an, 15 000 là. Fait que là, moi, j'avais 3 000, j'avais presque 12 000 à trouver.
Ouais.
J'ai emprunté 5 000$ à mon coloc. J'ai emprunté 15 000$ à la banque pour dire comme je m'en vais en voyage parce qu'ils passent pas d'argent pour les bars.
Pas pour ça, hein.
Puis j'ai trouvé 3 partners que
C'est drôle, ça. Ils passent pas de l'argent pour un commerce, mais tu dis je m'en vais en voyage. J'avais pas de trouble.
Non, pas de trouble parce qu'il est vraiment niaiseux. Puis j'ai calculé que, mettons, que le projet allait coûter aux alentours de 100 000. Fait que j'ai vendu des 25% du projet à 3 amis qui embarquent dans le projet. Fait qu'on s'est ramassé avec 100 000$ de budget.
Okay.
Puis on a réussi à l'ouvrir avec 102 000. Il manquait un peu d'argent. Les ventes d'alcool la première fin de semaine ont servi à payer les gars de rideau parce qu'on avait...
Ah, oui.
Hey, ça a failli pour ouvrir 22 fois.
T'avais-tu une variété d'alcool ou t'as dit, garde, on vient d'ouvrir vodka, Red
Bull? Non, mais l'affaire, c'est ça. C'est que j'ai parti ça avec quand même 3 autres passionnés de bar.
Okay, okay.
Puis la première commande à SOQ, là, des enfants avec des paniers d'épicerie qui est comme... Ah, là, 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 puis on était épais. Puis ça a dû coûter 3 500$ de fort. Puis, on a réussi à l'ouvrir, mais ça a tellement passé proche de pas marcher.
Mais quand ça a commencé, le jockey, tu n'étais pas encore dans l'humour?
Non. J'ai fait un choix à cégep en spectacle, j'étais pété à gueule.
Ouais, non.
C'est tout.
Mais tu n'étais pas encore. T'avais-tu en tête? L'humour, faisais-tu partie de tes idées ou pas encore?
Moi, j'ai toujours été un gros fan d'humour. L'humour, tu sais, comme à Canal D, j'écoutais ça. Yvon Deschamps, tu sais, j'ai lu sa biographie, je trippais sur l'humour, mais je m'étais tellement pété à gueule à cégep en spectacle que j'étais comme, au moins, j'ai essayé.
Ouais.
J'ai essayé de réaliser mon rêve, puis quand on a commencé le jockey, la fin de semaine, ça roulait en malade mental. Les jeux du vendredi samedi, il y avait des line-up. Mais,
c'est quoi? C'était plus discothèque ou
c'était à l'époque où les bars de quartier commençaient. Il y avait le Miss Villeray qui avait été un gros hit, puis là, il y avait comme la distillerie commençait à ouvrir sa deuxième succursale, puis on était comme... On va ouvrir un bar à cocktail de quartier.
Ouais.
Fait que, c'était avant même que les micro-brasseries deviennent en mode. Mm. Fait que là, on était comme dans le bon moment, dans un bon temps. Puis moi, j'étais un gars du hood, de Rosemont.
Ouais.
Fait que j'avais fait les 2 écoles primaires, les 2 écoles secondaires du quartier. Fait que quand ça se situe dans le quartier,
que
Charles ouvrait un bar, tout le monde était content
pour
moi. C'était un bel happening. Ouais. Plus toute la clientèle que j'avais faite en train dans d'autres bars.
Ouais.
Était super. Fait que ça marchait dès le début. Puis quand on a commencé les lundis d'humour, c'était parce que, un, j'étais un fan d'humour.
Ouais.
Puis
ça a commencé quand, ça? Tiens, entre
3 mois après l'ouverture?
3 mois après, okay.
À peu près.
Okay.
Puis je connaissais rien à l'humour. Là. Puis la seule affaire que je m'étais rendu compte, c'est que vu que j'étais au bar toute la semaine, si je disais au monde « Hey, viens lundi, moi je vais faire un numéro, ça va être drôle », le monde, il se déplaçait un peu plus parce que c'est dur de faire l'appréhension d'une soirée d'humour.
Ouais.
Fait que j'ai commencé à écrire des numéros juste pour que le monde vienne. Puis c'était y a des gars qui m'ont dit « Hey, c'est drôle tes affaires, tu devrais faire les auditions de l'école ». Puis je me suis dit, je vais aller faire les auditions de l'école. Mais tu sais, il faisait 6 mois que le bar était ouvert.
Ouais.
Puis j'étais comme, tu sais, je ne serais pas accepté, mais au moins, je vais pouvoir dire que j'ai essayé de réaliser mon rêve. Mais là, j'ai été accepté. J'étais « Fuck! »
OK, tu t'es surprêté comme « Oups! »
Je pensais pas être pris. Je pensais vraiment comme, tu sais, au moins, je vais pouvoir dire que je l'ai essayé. Puis là, j'ai été accepté. Puis là, hey, moi, y aller, là. Mais tu sais, je venais d'ouvrir un bar, j'ai pas le temps d'aller à l'école.
T'es peut-être la seule de la gang qui dit « Que je fais l'audition, fuck off. » Puis, ah, merde, ils m'ont pris.
Ouais, j'étais vraiment, ah, oh, merde.
C'est tous les autres que c'était, garde. C'était ça, mon but.
Tu sais, j'étais vraiment content quand j'ai eu l'acceptation. Mais tu sais, la première acceptation, c'est que tu passes au stage. Je suis comme, hey, bon, non, c'est bien cool. Puis là, je suis comme, on va aller faire le stage pour le plaisir. Puis là, quand j'ai dit la réponse du stage, j'étais tellement heureux. Puis après ça, les responsabilités ont commencé. Je suis comme, hey, mon Dieu, c'est 14 000 piastres. Hey, mon Dieu, je peux pas travailler pendant 2 ans. Puis là, je viens d'ouvrir un bar, je suis endetté. Je suis comme, hey, c'est pas grave, on va y aller. Puis c'est ça.
Tu as arrangé, mais en même temps, le bar t'a servi à financer. Comme...
Mais oui, puis non, dans le sens que le bar s'est remboursé un peu par lui-même. Oui,
mais je veux dire, ça, c'était ta paye. Tu avais un travail pendant que tu étais à l'école.
Mais la première session que j'ai faite à l'école, j'ai travaillé au bar.
Ouais.
Puis j'avais un salaire, mais je me rendais compte que ça nuisait beaucoup trop à l'école, le bar. Ouais. Fait que j'ai arrêté de travailler au bar. Fait que là, mettons, l'argent que je faisais avec le bar sans travailler là permettait de payer mes emprunts, payer mon loyer, puis tout ça. Mais tu sais, il fallait quand même que je paye le 14 000 piastres à l'école. Puis tu sais, c'était. Je me suis réendetté comme un tata. Puis là, aussitôt que.
Ah, pourquoi un tata? C'est normal de s'endetter.
Ben oui, oui, puis non.
Quand il y a quelque chose, il y a une finalité à ça.
Ouais, mais j'avais pas de plan, moi, là. Ouais, j'étais pas, tu sais, je voulais pas être un humoriste, je voulais pas travailler des bars, je voulais faire du BMX, tu sais. Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai fini ma carrière de BMX, puis en dedans de 2 ans, je suis comme, je m'inscris à l'école du mot, j'ouvre un bar, tu sais, j'ai l'air d'un tata qui sait pas trop ce qui s'en va, puis j'étais un tata qui sait pas trop ce qui s'en allait, mais qui adorait ce qu'il faisait.
Ouais.
Fait que, tu sais, j'étais quand même chanceux de mes pions étaient bien placés sans avoir de plan d'affaires ou de plan de vie, là.
Ben, écoute, moi, j'ai jamais vu l'investissement d'aller à l'école ou peu importe. Ben, moi, je suis un entrepreneur, fait que quand j'investis des fois, je ne suis pas tant à 100% sûr de ce que mes affaires, mais même quelqu'un qui s'endette pour se scolariser, peu importe ce qu'il fait, c'est pas une mauvaise dette. T'sais, une mauvaise dette.
Ben, l'école, le mot, moi, je vois du monde rentrer là qui ne devrait pas dépenser 16 000 $.
Oui, mais ça, c'est pas pire qu'un gars qui va s'acheter un Harley Davidson puis après 2 ans, il est tanné.
Ouais.
Ou un gars qui va s'acheter, ou va se marier trop vite. C'est des mauvaises décisions. T'sais. Mais je pense que peu importe dans quelle formation que tu vas suivre, ou même investir dans un projet, ça rend la vie cool.
Ben, j'ai tellement aucun regret de toutes ces affaires-là, là, genre fois 1000, mais des fois, je fais des conférences sur l'entrepreneuriat, puis. Tu sais, je suis pas aussi de dire aux jeunes, faites-vous un plan d'affaires. J'ai zéro fait ça. Là.
Non, mais plan d'affaires, là, j'ai eu une vingtaine de compagnies, là, les très grosses, là, c'est dans plusieurs dizaines de millions. Là, puis ce qui arrive, c'est que ton plan d'affaires, là, ça, il marche au début pour faire plaisir aux banquiers, whatever, mais c'est, jour 2, là, ça chire. Ça chire. Ouais.
En fait, je pense pas qu'il faut un plan d'affaires, mais il faut que tu connaisses la business dans quoi tu t'embarques.
Ouais. De comprendre ta compétition, comprendre, tu sais, y a-tu la rentabilité à aller chercher, potentiellement, du moins. Ça, oui.
Tu sais, comme le bar, on n'avait pas de plan d'affaires, mais on voyait les nouveaux bars de quartier popper. Ouais. On était comme, hey, c'est un bon spot, hey, c'est pas cher le loyer, hey, c'est cool, hey, je connais du monde dans le quartier. Tu sais, comme, il y avait une réflexion.
Il y a l'intuition aussi.
Ouais.
Quand tu es en affaires, l'intuition, elle joue pour beaucoup.
Puis le bar aujourd'hui est rendu à 8 ans. Puis tu sais, la durée moyenne d'un bar, c'est 3 ans à Montréal.
Tu l'as vendu?
J'ai vendu mes parts, oui.
Tu as vendu tes parts parce que tu étais occupé. Là, on va souligner. Donc, tu es à l'École nationale de l'humour. Tu fais ton 3 ans, je pense.
C'est 2 ans.
Donc, tu fais ton 2 ans. Ça va bien. Tu aimes ça. Tu tripes. Quand tu sors de là,
ouais.
Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ta vie? Tu as encore ton bar à l'époque. Qu'est-ce que tu fais?
Je fais des bars. J'étais pas dans le top, dans les chouchous de la cohorte, là, dans ceux que ça part tout de suite en sortant, mais à cause du jockey, j'avais déjà mon nom de fête dans le circuit des bars. Fait que, je jouais déjà 3-4 fois par semaine. C'était pas super payant, mais j'arrivais à survivre de l'humour. Puis là, après ça, en moins d'un an, il y a Bellefeuille qui m'est arrivé avec le projet du bordel.
Ça, raconte-moi ça.
C'est encore un peu n'importe quoi. C'est... Dans le fond, Bellefeuille était supposé d'ouvrir un comedy club avec les 4 autres gars.
Eux autres avaient déjà fait leur analyse ou il y avait déjà.
Mais les gars sont millionnaires. Ils voulaient un comedy club. Puis Bellefeuille avait trouvé quelqu'un. Finalement, la personne n'était pas. Il venait d'avoir des enfants. Il n'y a pas le temps de s'occuper du projet. Ouais. C'est Phil Roy qui a dit à Bellefeuille, Charles, il serait capable de te le faire.
Okay.
Fait quand même, Bellefeuille m'appelle. Fait comme, tu sais, on aimerait s'ouvrir un comedy club. On peut-être prendre un café. Je prends un café avec. Puis je suis comme, ben, je suis game de te l'ouvrir. Parce que, tu sais, c'est offert sur un plateau d'argent. C'est comme, on est des millionnaires. On veut un comedy club, on s'en calisse du budget. Je suis comme, va te le faire. Puis là, moi, je pousse ma ligne un peu loin. Je suis comme, je vais le faire à une condition, je vais être partenaire. Puis
ben
lui, il dit, ben ouais. Puis là, je suis, oh shit, OK. C'est ce gars-là. Mais là, moi, je commence à faire des recherches sur des locales, tu sais, des fonds de commerce à acheter, des bars à acheter. Puis je magasine pour le petit medley. On passe proche à acheter la boîte à Marius, on passe proche. Puis là, tu sais, ça commence à être de plus en plus concret.
Sûrement une question de configuration, mais le jockey n'était pas dans...
Pas de permis de spectacle.
Ah oui, à cause de... Il y a du monde qui vit en haut.
Oui. C'est une espèce de zone grise avec la police de tu as le droit de faire des soirées d'humour, tu as le droit, mais si on te donne un permis de spectacle, c'est que tu as le droit de faire venir Metallica jusqu'à 3h du matin. Fait qu'on t'en donnera pas de permis de spectacle. Ouais. Mais si tu annonces un comedy club, là, il te faut un permis de spectacle. C'est plus touché. Fait que le jockey pouvait pas marcher pour ça. Puis là, quand c'était rendu plus proche de la finalité, là, je demande à François, je suis comme OK, là, il faut que je crée la compagnie, j'ouvre le compte de banque. Quand tu me disais le budget illimité, là, on parle de combien? Puis là, je m'attends à 2, 3, 4 millions. Puis il me dit 150 000. je pleure. Ça fait 6 mois que je cherche des locales.
Tu sais, t'étais à des millions de budget.
Moi, il y a une de mes amies qui venait d'acheter la boîte à Marius qui allait transformer en Das Beer, qui est un bar brasserie de type allemande. Puis là, j'étais comme, je te l'achète. Je viens de l'acheter, Charles, je suis en train de Renault. Non, je m'en calais, je te l'achète.
Tu savais pas comment.
OK, bah, t'as le vendre le double. Je suis comme, OK, là, je pense que c'était une histoire de 600, 700 000, j'allais l'acheter. Ouais, parce que le spot était bon, la grosseur était bonne, tout était parfait.
Ouais.
Mais là, comme.
C'est la boîte à Marius.
Oui, qui était sur Papineau-Rosemont.
Papineau-Rosemont, ouais.
Moi, j'étais comme, c'était un esti de bon spot. Il y a un stationnement, tu sais, comme, il y avait de quoi de le fun, pas trop loin du métro Rosemont. Tu sais, c'était une possibilité. Mais là, quand j'ai appris que j'avais 150 000 piastres de budget, j'ai broyé, là.
Ben, qui est correct pareil, parce qu'il y en a qui ont...
Mais ouvrir un bar avec 150 000 piastres.
Ben, pas pour en acheter un.
Mais à la base, c'était ça. C'était d'acheter un bar, le rénover, le transformer en comédie club.
Pour l'acheter et le rénover, c'est pas beaucoup.
C'est fuck all, là. C'était quelque chose. Puis surtout, c'est que, tu sais, mettons, le jockey, je m'étais arrangé avec les moyens du bar.
Ouais.
Mais c'était dégueulasse, le jockey, quand on l'a ouvert. Mais c'était correct. C'était quatre gars de 24 ans qui ouvraient un bar. C'est normal que c'était un peu du crush. Mais là, tu peux pas ouvrir un bar avec Louis-José Hood, Laurent Paquin, Mike Ward, Bellefeuille, Martin Petit, avec...
Tout croche,
tu sais. Puis là, finalement, on est vraiment très chanceux. On a rencontré la gang du Pop Quartier Latin. Ils ont dit, ben, tu sais, tu préfères ça de ce côté-là.
Okay.
Nous autres, on book des parties d'habitude. Si tu fais des soirées d'humour de l'autre côté, c'est que là, je suis comme crime, pas obligé d'acheter un bar, pas de loyer à payer, juste les rénaux à payer, mettre une scène.
C'est toi qui as fait les rénaux?
On a engagé du monde pour faire les rénaux, mais tu sais, 150 000, c'était pas beaucoup. Fait que souvent, j'étais le premier arrivé. Puis durant la journée, je faisais des commissions pour les gars. Puis à soir, je ramassais le chantier.
C'est pas toi qui amène la brique.
J'ai posé du gib, j'ai détruit du plancher, j'ai construit la scène de mes
design,
mains.
C'est toi qui as designé?
Oh, on a fait affaire avec une designer. J'haïs les designers, c'est-tu que j'haïs ça? Ça coûte cher, puis ils ont des goûts, là. Mais c'est moi qui ai l'idée le projet.
C'est ça. Tu as l'idée le projet complet,
ouais.
La mise en place. Là, ce que vous êtes installé dans le pub du quartier latin, vous aviez une section. Le bar, dans le fond, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que donnez-nous les revenus. Corrige-moi si je me trompe. C'était quoi le deal? Donnez-nous les revenus de
la tour. Les détails, mais en gros, ils font l'argent à sa boisson, on fait l'argent à sa porte.
Ben, c'est le concept qu'on fait à nous avec Punch and Roses, là, où est-ce qu'on va jouer. Fait que, OK, donc ça, c'est cool. Puis là, quand ça prend place graduellement, je pense que c'est en 2015, si je ne me trompe pas.
Ça va faire 5 ans en 2020,
Ça va faire 5 ans en 2020, donc c'est vraiment cool. Parce que c'est devenu le bordel. Tu savais pas au début, mais c'est devenu...
D'autres, je pensais tellement pas que ça allait être aussi gros que ça. Là.
Tu pensais pas que ça allait devenir une institution?
Je m'appelle Maud Landry, elle a commencé à devenir cool, elle a été signée chez Faneuf. Dans sa biographie, c'était marqué... a déjà joué au mythique Bordel Comedy Club. Ça fait un mois que c'est ouvert. C'est pas encore mythique.
Ah oui, ça fait un mois.
Dans un mois ou deux, c'était des débuts. Je suis comme, mythique, on se calme. Là.
Elle anticipait.
Et puis au début, là, comme, j'avais fait un semi-plan de comme, combien d'argent ça pourrait rapporter. Puis dans le plan, je me rappelle, il y avait deux shows les samedis, un show les vendredis, puis un show à 50% sold out les jeudis. Là. C'était comme...
Ah, oh, OK, t'avais mis ça au minimum.
Mais on pensait que ça allait être ça.
Mais finalement, c'est plein mardi ou samedi.
Mardi ou samedi, trois mois d'avance, plus les podcasts de Mike le dimanche, les open mic, le lundi, on fait de la location des one-man shows. Fait que c'est énorme, là.
Ça fonctionne. Ben, c'est rendu... C'est devenu une institution.
C'est devenu une institution, puis j'en suis gêné des fois, comme pas gêné, mais... Il y a un des propriétaires du Comedy Cellar à New York qui parle français. Il est venu au bordel avant que moi j'aille au Comedy Cellar. Puis il félicitait l'endroit. Je suis comme, c'est quelque chose pour un ticoun.
Dans le processus, est-ce que vous étiez allé, des fondateurs, puis toi, est-ce qu'il y a une de la gang qui est allé faire le tour aux États-Unis, voir qu'est-ce qui se faisait?
Ben, les gars comme Bellefeuille, ben, en fait, tout le monde était faire des tours dans les comédie clubs, mais c'était pas nécessairement dans le but de ça. C'était par amour et passion du métier. Puis ils ont pris des idées, tu sais, de ah, quand ça s'est fait de même, ok, je comprends pourquoi ça s'est fait de même, ça a l'air de telle affaire, mais moi, tu es allé voir le Comedy Nest une fois. Là, puis...
OK. Mais c'est ça, il y avait un apprentissage dans le design aussi sur le positionnement de la scène, la largeur, tu sais, la proximité. Où
c'était... Ah, mais ça, tu sais, j'avais tellement fait de shows que j'avais cette compréhension-là de c'est quoi. Un beau setup pour jouer. Puis, c'est un peu la raison pourquoi ils sont venus chercher. J'étais capable d'ouvrir un bar, mais je faisais du stand-up. Fait que je comprenais que la scène, maximum en telle hauteur, puis telle hauteur, la grosseur des tables, okay, le plafond bas, faut que ça soit sombre. Okay. T'sais, comme, ces détails-là, j'ai catché. Il n'était pas obligé de tout m'expliquer ça. Mais j'ai pas fait de recherche. J'ai pas été à New York voir les comedy clubs avant de.
Je pensais que c'était ça. Je pensais qu'il y avait eu des fois.
Ah, non, non, c'est encore un peu broche à foie.
Non, mais c'est correct. Ça fait. Non, mais c'est pas. Ça a tout le temps besoin de. Des fois, tu vas t'inspirer, un peu regarder ce qui se fait. Puis, nous, avec Punch and Roses, qu'on produit dans trois villes, ben là, maintenant deux. Mais c'était ça aussi, le deal des dimensions, la quantité de personnes. T'sais, on a passé d'une salle à 250 l'année passée, on a slacké à 150 parce qu'on trouvait que c'était pas assez proximité, puis ça faisait pas une belle qualité de show, mais on s'en est rendu compte en le faisant. Mais je comprends tous ces éléments-là. Fait que donc, vous avez starté ça, t'étais pas mal le leader du projet.
J'étais le leader du projet.
Dans la mise en place.
Puis, tu sais, vu qu'on n'a pas beaucoup de budget, puis qui fait que je respecte le budget, j'ai travaillé quand même malade mental, puis, tu sais, j'essaie de trouver des coûts. Fait que, tu sais, je posais moi-même des affaires, puis, tu sais, j'étais allé faire, tout le monde en parle, j'avais de la peinture sur les mains.
Ouais.
Tu sais, c'est n'importe quoi, puis là, tu sais, comme. On fait tout le monde en parle, on annonce que ça l'ouvre la semaine prochaine, puis c'est pas fini. Moi, je suis comme, je broille. Puis, tu sais, puis après tout le monde en parle, on va souper au restaurant de Guy. Puis là, je suis comme, hey, c'est le plus beau souper que j'ai ever. Tu sais, j'ose avec Thomas Mucler, j'ose avec plein de monde. Je suis comme, hey, faut que je parte, faut que je parle le chantier pour le lendemain. Parce que là, il y a 2 millions de personnes qui pensent qu'il y a un comedy club qui ouvre dans une semaine, puis j'ai pas le droit de dire, ouais, c'est pas fini. Fait que, tu sais, c'était un stress, là, incroyable.
Que les autres avaient peut-être moins que toi.
Ah, les autres, je pense que...
Oui, t'es aussi fébrile. Là.
Moi, à un moment donné, dans les débuts, t'sais, j'étais tellement intimidé par ces gars-là. T'sais, c'est mes idoles, c'est des gars que... T'sais, c'est la raison pourquoi je fais de l'humour, c'est que j'ai vu ces gars-là à télé. Puis à un moment donné, on a posé une question sur... On avait trouvé le nom Le Bordel. Mais là, c'est... Est-ce qu'on appelle ça Comédie Club? Club de comédie? Ou... Puis là, il y a des défenseurs de la langue française. Ouais. Fait que là, je te niaise pas, je pense que ça a été 200 emails de back and forth.
À gang.
Puis là, j'étais comme, hey, on s'ostine pour le nom. Là. J'ai pas encore parlé de
le bordel, il y a des colliers où le nom bordel?
C'est l'idée de Laurent, c'est parce que le bordel à l'époque était un ancien bordel.
Okay.
Fait qu'un des premiers meetings où on a visité
cet
l'endroit.
Cet emplacement-là. Était vraiment un bordel.
Un bordel.
Classique.
Avec des putes, là, puis tout, là. Fait que, tu sais, c'est que le nom était excellent. On sait, tu sais, tout ça, le nom, le bordel, facile à trouver. Mais là, après ça, tu sais, mettons juste le mot Comedy Club. Mike est très comme. C'est un comédie club, là. Ouais. On va arrêter de jouer ces mots. Puis il y en a qui. Tu sais, c'est le respect de la langue française, puis c'est super noble. Mais là, moi, il faut que je me batte avec Martin Petit contre Mike Ward. Puis là, je suis comme. Hey, j'ai pas le goût d'être dans le milieu de ça. Fait que là, fais des recherches, appelle à l'Office de la langue française. Puis là, je me rends compte que si on fait comédie, puis là, il y a une petite étoile dans le milieu.
Ouais.
Puis là, c'est marqué club. C'est plus un mot, c'est une énumération.
Fait que c'est exactement.
De la comédie, c'est un club.
Ouais.
Fait que là, j'explique au gars qu'à regarder sur la langue française, on est correct. Mike, t'es content? Je suis comme, oh yes. Puis là, je me suis dit, il me reste 2 mois pour l'ouvrir. Je pose plus de calice de questions.
C'est comme ça.
Fait que là, tu sais, genre, j'étais tellement. Tu sais, Bellefeuille, il venait voir souvent le chantier, Laurent aussi. Ben, tout le monde venait un peu, mais j'ai arrêté de poser plus de questions que je pouvais pour que ça avance. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a du monde qui sont venus à la rencontre. Qui sont venus après ça, une semaine avant tout le monde en parle, voir l'étendue des travaux, puis ils sont venus à l'ouverture.
Eux autres, il y avait un projet clé en main.
Oui, c'était un projet clé en main.
C'était
là.
Toi la clé.
C'est stressant, là, c'est des idoles, puis tu sais, c'est quelque chose. Puis la première fois que j'ai rencontré ces gars-là, tu sais, c'est tous des humoristes, ça compte des anecdotes, puis ça jase. Mais là, moi, on m'avait dit, hey Charles, t'as pas 2 heures à présenter le projet, t'as une demi-heure parce que Louis-José doit partir. Fait que là, j'ai une demi-heure pour tout leur expliquer le projet. Plus ça jase, plus j'essaie de couper la parole en punchant. Oh. Essayer de puncher devant tous ces gars-là. Puis ça parlait du bye-bye à Laurent Paquin.
Ouais.
Fait que là, moi, je dis, ah, je l'ai écouté moi aussi, Laurent, ton bye-bye. J'étais correct. Mais eux, ils prennent pas ça pour une joke. Juste l'air du kid qui est fucking arrogant qui vient de sortir de l'école. Tout le monde me regarde, quoi. Puis hey, ça a tellement fait mal, ce regard-là. Là, j'étais, oh fuck. Puis je ne l'ai pas accusé. Je fais, bon, voici le projet.
Puis j'étais, oh, t'as sauté de ça, t'as
aussi. Oh man, c'était malaisant. Là. Hey, je m'en veux tellement de ce moment-là dans ma vie. Là. C'est, bon. Toutes tes idoles qui sont devant toi, t'es tout énervé. Puis là, ils te regardent tout avec un regard de comme.
La nervosité, des fois, tu fais m'embarquer dans la mauvaise direction. Mais ça, c'est drôle. Toi, t'es mort en dedans.
Je suis mort en dedans à ce moment-là. Là.
Puis écoute, jour 1. Sûrement les billets. La vente en ligne, étais-tu déjà activée ou tu n'étais pas rendu là encore? Là?
On a fait un show test, puis la vente en ligne était activée. Puis je pense que ça soldait out tellement vite qu'on a rajouté des spectacles. Un troisième show le samedi à minuit, puis là, on a rajouté des shows le mercredi, le mardi. Puis là, Mike a commencé avec ses podcasts le dimanche, puis à un moment donné. Les humoristes chialent parce que c'est bien trop tough de jouer au bordel. Ouais. Fait que là, Mike, il met beaucoup de pression pour qu'on parte un open mic, un open mic. Là, Bellefeuille, il fait comme, hey, il s'est rendu 4 mois d'attente de faire l'open mic, il faut faire un deuxième open mic. Il n'y a personne qui a 2 open mic. Puis je dis, ben, on va être les premiers. Puis, OK, on part un deuxième open mic.
Il y a encore 4-5 mois d'attente.
Oui, puis là, c'est ça. Fait que tu sais, c'est n'importe quoi, là.
Ben, c'est pas n'importe quoi. C'est un beau succès.
Ben, c'est le plus beau des succès, là. C'est
parce que tu sais, normalement, t'es là, t'as plus besoin de ça se remplit bien, tu peux booker d'avance, l'argent rentre d'avance, c'est un beau projet d'affaires. C'est rare que dans une compagnie, tu réussis à tout ficeler ça ensemble pour que ça arrive à ce résultat final-là.
Puis ce qui est drôle, là, puis qui est triste en même temps, c'est que chaque fois que je disais, j'ai fait des conférences sur l'entrepreneuriat, je disais, travailler avec des gens qui sont passionnés, c'est contagieux, puis ça va marcher. Fait que, la raison pourquoi ça marche, c'est que c'est tous des gros fans de stand-up qui aiment leur métier. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça marche, mais travailler avec du monde qui veulent pas faire d'argent parce que tu sais c'est pas leur but de faire de l'argent avec le bordel. Moi ça me fait capoter parce que tu sais moi j'essaie de sauver des 100 piastres là, des 200 piastres là pour que la business comme ça va super bien. Tu sais je suis très fier à la fin de leur montrer des beaux chiffres d'affaires, faire comme regardez tu sais ça va bien, on peut mettre de l'argent sur telle affaire,
tricote fort
puis là après ça genre j'ai sans vouloir être méchant là, tu sais j'en ai un qui va faire comme hey on devrait installer telle affaire puis tout le monde ouais puis c'est 30 000 piastres mais tu sais c'est ça la beauté du projet, les gars ça en calisse de l'argent là, tu sais ils veulent pas perdre d'argent avec ce projet-là. Puis on s'est remboursé la mise initiale, puis on a fait de l'argent. Mais au début, c'était ça me dérange pas de perdre la mise initiale, mais je veux pas remettre d'argent. T'sais, c'était ça la commande. Mais là, tu sais, comme il y a de l'argent, puis les gars, la salle de podcast, vraiment, non, calice, il y a 7 caméras là-dedans à 3 000$. Puis tu sais, c'est OK, c'est cool.
Ben, en même temps, les podcasts donnent beaucoup, beaucoup de visibilité à tous les gens qui ne sont pas de Montréal, qui tout le Québec au complet, la francophonie, on pourrait même dire la francophonie, les Québécois qui vivent, et même Français qui vivent en dehors, connaissent le bordel.
Ouais.
Donc, c'est bon pour l'image de marque. Puis, cette salle-là, par contre, est utilisée exclusivement...
En ce moment, par les gens du bordel. Puis peut-être éventuellement faire de la location, mais pour le moment, tu sais, on sait même pas trop... Il y a tellement d'équipements chers qu'on ne sait pas trop comment ils marchent.
Oui, il n'y a personne qui maîtrise, sauf un technicien, il faut que ce soit tout le temps là.
Il y a deux techniciens qui splittent un peu la job, mais même les deux se battent ensemble parce que, genre, l'un qui a modifié les affaires, l'autre qui a le dit, puis l'autre arrive. Puis... Fait que là, pour le moment, on ne veut pas rentrer une troisième personne, mais éventuellement.
Aussi, tu protèges ton image en n'ayant pas des podcasts externes. Des fois, tu as du monde qui embarque dans des sujets que tu ne veux pas coller à ça, puis tu protèges en faisant ça aussi de cette façon-là, puis je trouve ça normal. Puis tu m'avais dit. Que vous étiez en projet pour une deuxième salle.
Ouais, que j'ai pas le droit de parler là.
T'as pas le droit de parler, fait qu'on n'en parle pas.
On n'en parlera pas. Mais ça s'en vient.
Mais je vais faire ce bout-là.
On peut laisser planer le mystère.
On va laisser planer. Donc, on va planer ça. On laisse ça planer qu'il y a une suite à ça.
Il va y avoir une suite à ça.
Puis, c'est ça. Fait que là, c'est toi qui s'occupais du booking.
Ouais.
Le booking, c'est quelque chose. Ça dépend peut-être pas pour du. Raconte-moi cet aspect-là de la gestion d'un comedy club, le booking. Parce que le booking, pour nous autres, on avait trois shows par mois, 7 shows par mois, puis c'était quelque chose.
T'sais. Mais moi, j'étais full équipe, OK? Parce que là, je m'occupe du bordel, je m'occupe de l'open mic du bordel, puis je m'occupe du jockey.
Oui.
Puis, on met beaucoup de pression au début, surtout sur la qualité des shows. Oui. Fait que ce que je fais, c'est que, mettons, quelqu'un qui veut jouer au bordel, que je sais que ça passe pas tant que ça, je fais comme, écoute, je vais donner une date au jockey. Puis là, quelqu'un qui me demande une date au jockey, que je suis pas sûr qu'au jockey, je fais, hey, je vais donner une date à l'open mic du bordel.
Okay.
Fait que j'avais comme, tu sais, j'avais mon camp école pour peu importe ce que je voulais faire. Fait que c'était cool. Puis, l'avantage, contrairement, mettons, à vous autres, c'est que il y a tellement de shows au bordel que, tu sais, mettons, quelqu'un m'écrit puis j'ai pas de place, je suis comme, hey, demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Fait que, ouais. Vous autres, c'est un show, de, vous avez quatre humoristes
par soir. Il y avait Montréal qui était un hebdo qu'on a arrêté pour mettre du temps sur
d'autres. Mais moi, c'était 11 par semaine.
Ouais, c'est ça. T'avais de quoi te déplacer un peu.
J'avais de quoi te déplacer un peu.
Mais des cancellations, tu joues pas le soir même.
Ça, là, man, il y a eu des affaires là, des humoristes qui se pointent pas ou que moi, j'ai fait une erreur. Fait que là, finalement, tu appelles quelqu'un comme, hey, peux-tu être là dans 12 minutes exactement? Puis, tu sais, il y a eu des shows qu'il a failli. À un moment donné, je pense que j'ai juste oublié.
OK.
Puis le show est dans une heure. Il n'y a pas d'animateur. Il fait trois mois que les billets sont sold out. Puis là, oh shit, on avait rajouté un troisième. Un show le mardi, il n'avait pas avant. Non, puis c'est quoi l'histoire? Mais genre.
T'avais oublié de booker tout le show complet?
Tout le show.
Oh non.
Tout le show.
Puis y'avait-tu du monde dans le bar un peu qui faisait de l'humour?
Non, mais là, je m'en rends compte, je fais oh shit. Fait que là, moi, je me mets sur le show, je trouve un animateur. Finalement, il y a des gars qui m'ont dépanné comme Eddie King, Daniel Grenier, Adib Alcaldé qui ont joué là, des deadlines de 30 minutes ou de 15 minutes des fois. Puis, tu sais, ça n'a jamais trop paru que je suis un gars ludatique. Il y a eu, tu sais, mettons, je pense dans l'histoire des 5 ans du bordel. 4 gaffes majeures ou ce que. Puis même pas majeures, le monde s'en est même pas rendu compte. Mais genre.
Tu pédalais en tabarnouche par en dessous. Là.
Ou tu sais, comme quelqu'un qui se pointe un gros nom, puis j'avais oublié de le mettre dans l'agenda, puis quand. Oh. Ah, je suis pas sur le show. Excuse.
Ouais.
Mais tu sais, je m'en ai bien sorti. Puis...
Le gars, il rentre, il dit bon, je m'en viens faire mon show. Non.
Non, puis. Tu sais, c'est arrivé à Wagner, là, tu sais, comme. Ouais. Il m'avait demandé, comme, t'as-tu une date? Je dis, peux-tu jouer, t'as-tu de la place demain? J'ai marqué full en disant.
Je check toute ta caméra, vas-y, continue.
Tu sais, comme, j'avais répondu full dans le sens, je suis complet. Puis lui, il a compris, genre, j'ai full de place. Puis là, il s'est pointé, puis je suis,
Tu l'as passé pareil?
Ouais, je l'ai passé pareil, finalement. Ou non, je pense que lui, il a fait, hey, c'est pas grave, j'étais brûlé, finalement. Puis, bon. Sinon, tu sais, il y a plein d'histoires de malaise de booking, mais je suis quand même chanceux parce que le fait que je sois humoriste.
Ouais.
Fait que j'étais souvent sur place. Fait que si quelqu'un n'est pas là, j'embarque.
Ça me donnait du temps de scène.
Si, puis tu sais, si un gros nom se voulait se rajouter, ben moi, je m'enlevais du spacing. Fait que tu sais, je me donnais comme limite. J'essaie de jouer une fois par semaine, une fois par deux semaines. C'était comme un peu ma récompense de gérer cette affaire-là. Mais tu sais, tu pouvais me déplacer moi-même, tout ça. T'sais, en ce moment, la Julie Lacroix qui s'occupe du booking, elle n'a pas ce luxe-là. Fait que tu sais, c'est... Puis... Le changement de booker fait tellement de marde, là. Tu sais, mettons, il y a du monde, pas que j'aimais plus, mais que moi, je bookais plus souvent parce que je vois en eux certaines affaires que l'autre booker voit pas, puis l'autre booker voit des affaires que moi, je vois pas. Fait que là, quand tu changes de booker, tout le monde charge comme « Tabarnak, j'ai plus de date, tabarnak, j'ai plus de date. » Non, t'as pas de...
Puis toi, tu dois accepter de te remettre en retrait ou tu vas au combat une fois de temps en temps?
Mais là, il faut que je l'appelle tout à l'heure parce que je me mets beaucoup en retrait. Je pense que je laisse toute la place, mais je lui transmets les messages qu'on me transmet.
Ouais.
Tu sais, je vais dire « Hey, il y a telle personne qui trouve qu'il joue pas. Moi, c'était ça. De là. Toi, c'est quoi, c'est ta réalité avec? »
C'est ça.
Moi, voici les raisons pourquoi je le faisais jouer plus souvent. Faisant ce que tu en veux, je te fais full
confiance. Au moins, tu as ce petit recul-là pour dire, écoute, on t'a confié en tâche, je te donne mon feedback, le pourquoi de la chose, mais tu y laisses tout de même cette latitude-là. Ce qui fait qu'avec l'expérience, ça va mieux s'acquérir pour elle, de sa façon-là, que tout le temps, ça va dire, regarde, fais ça de même, j'ai fait ça de même.
Oui, parce qu'à un moment donné, moi, je délègue une job. Fait que tu sais, si je passe mon temps à checker la job de l'autre, c'est aussi bien de la garder.
Parce que toi, tu voulais mettre plus de temps sur ta carrière, puis ça paraît.
Ça paraît, puis crime, ça fait un an, ça fait 5 ans que je suis sorti de l'école, puis j'ai l'impression d'être sorti de l'école l'année passée, parce que pour la première fois, là, je fais des affaires pour moi. T'sais, en dedans d'un an, il y a la sortie d'un livre, j'ai commencé à être là un peu plus, je fais mon show sur là un peu plus, j'ai fait un show d'une heure, concept aux oufesses à moi tout seul. T'sais, comme, enfin, je fais de l'humour, là, j'ai l'impression, pour la première fois de ma vie. Là.
C'est vrai, quand tu es en mode gestion...
ma vie avait pas de sens. Je regarde comment j'essaie de produire d'affaires en même temps, puis tu sais, c'était... Puis j'ai toujours géré plein de projets en même temps, mais là, c'était too much, puis je voyais du monde me dépasser, puis c'est pas péjoratif, mais tu sais, aller plus loin que moi puis faire des projets plus le fun, je comprends qu'ils ont ces gigs-là. Je passe 25 heures sur mon téléphone à faire du booking, à gérer des projets, puis de tu sais, faut que je me concentre sur mes affaires à un moment donné. Là.
C'est ça. T'as pas le choix à un moment donné de laisser aller sur une portion-là. C'était ça aussi, moi, la première année que j'avais commencé avec les gars de Punch and Roses. J'étais bizarre, je vais jouer sur tous les shows, puis à un moment donné, finalement, le soir du show, j'étais tellement stressé de ce qui se passait, où il y avait pas assez de monde, il y avait trop de monde. Ou
n'importe quel petit bug, le micro marche pas. Là, c'est toi qui, ah, genre, ce stress-là, mais tu te concentres sur
l'affaire. Tu te gardes. Je suis tellement pas dans un mode humoristique que je vais me retirer. C'était un peu meilleur pour le show, je pense. Fait que, à ces moments-là. OK, ça, c'est cool. Fait que là, c'est quoi les projets pour toi là, qui s'en vient prochainement? Là, on est comme un peu sur la fin. Là,
OK.
On n'est pas obligé d'être sur la fin, mais parle-moi un peu des projets.
OK, je m'amuse encore avec le Dictionnaire des Vedettes. On cherche le Dictionnaire des Vedettes, c'est le livre qu'on a sorti. Oui. Je t'en ai mis une copie si t'en veux une.
Ah, mais t'as lancé ça il y a 2 semaines?
2 semaines, oui.
Moi, j'étais supposé y aller, mais mon fils était au soccer en même temps. Tu sais, à un moment donné, il faut gérer les deux à la famille. Puis c'est vraiment cool. OK, vas-y.
Le livre qui est déjà le top des palmarès, c'est qu'on est vraiment content de ça.
Beau cadeau de Noël.
Beau cadeau de Noël, 20$ seulement. Renaud Brie, Jean Coutu, Archambault, Yvartout. Fait que ça, là, on s'amuse avec le compte Instagram. On a des idées de projet, mais ça, encore
compte Instagram, tu avais clenché 60 000.
On vient de clencher 60 000.
Ouais.
Fait que ça, on a du fun avec ça. Puis moi, ma page Facebook est à 4 000. Fait que ça serait fun si ça balance un peu tout le monde.
Peut-être pas sa page perso.
Sinon, je suis en train de travailler sur un projet de. Il y a C'est quoi les potins, là, mon genre de petit vlog podcast que je vais
cool.
avec ça.
Ton podcast, je le trouve vraiment cool. Il a starté ça, c'est sa 3e ou 4e émission qui sort demain.
Demain, 4e, ouais.
4e, qui est C'est quoi les potins? Puis, raconte.
J'ose de ma semaine en humour, on voit un peu les dessous, je raconte un peu ce qui se passe.
Ouais.
Fait qu'un peu moitié podcast, moitié vlog. Ouais. C'est des épisodes genre de 8 minutes, c'est short and sweet. Puis, j'ai bien du fun à faire ça.
Non, j'aime ça, je l'écoute souvent. Trois fois qu'il a
sorti. Ça vient de commencer.
Trois fois. Mais j'étais au gym, j'écoutais ça. Je riais tout seul dans le gym. Le monde me regardait, j'étais fou. Fait que non, c'est vraiment cool comme émission. Puis, à part ça.
Le prochain gros projet, on dirait que. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, je faisais beaucoup d'humour un peu plus noir.
Oui.
Je pense que c'était parce que j'avais besoin d'avoir des réactions parce que j'étais stressé.
Oui.
Puis là, après ça, je suis tombé en amour, j'ai une blonde, j'étais heureux. Fait que je faisais de l'humour vraiment plus noir. Puis là, on dirait que ça va toujours bien avec ma blonde, mais je réapprends à faire de l'humour noir. Puis là, j'ai du fun. Oui. Puis de ce temps-là, je fais vraiment du gros stock heavy. Puis je le proposais à Zoufès. Je pense que je vais faire le show le plus heavy de l'histoire.
Oui.
Genre public averti. Puis ça va être ça mon projet de l'année, créer l'heure la plus élevée possible parce que je pense que j'ai une facilité à aller dans ces affaires-là. Puis tu sais, sans de le faire intelligemment.
Ouais.
Fait que là, je m'amuse à créer cette affaire-là, puis j'ai du fun, mais des fois, ça va mal, là, ça passe pas. Mais j'ai du gros
c'est
fun
ça,
à faire
la
ça.
La ligne est mince. Est mince, mais quand tu réussis à flipper l'autre bord, c'est beau. C'est juste beau, là.
J'ai fait un nouveau numéro à l'Open Mic du bordel. Puis l'Open Mic du bordel, le monde sont gentils, sont généreux. Puis c'était tellement élevé que quand on m'a déprésenté, ça l'a pas applaudi. J'ai jamais vu ça. Il y a du monde qui ont ri, tu sais, mais le monde, il se sentait mal de rire, mais genre. Puis là, c'était, c'était Charles Deschamps. Même pas un.
Rien.
Rien.
C'est genre, bye.
Puis là, c'était fait une dizaine de fois que je fais le numéro. Puis c'est le numéro que je me fais le plus parler. Après, le monde sont comme, oh mon Dieu, man. Oh wow. Oh shit. Puis là, je serais peut-être rendu à une demi-heure d'EV. Puis, mais EV intelligent. Puis là, le but, ce serait de me rendre à une heure pour faire l'affaire, le show le plus noir de l'histoire.
À Zoufest ou.
Ben, Zoufest, c'est pas encore accepté, je l'ai même pas encore proposé.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, il va être souvent dans un festival
quelconque.
Il va être à quelque part. M'amuser à le produire, mais c'est vraiment faire le show le plus évident.
Parce que t'as une de tes skills qui est le roasting.
J'adore les roasts.
T'adores le roast. Moi, je vais te raconter une histoire drôle. Ben, pas drôle, c'est zéro drôle. C'est juste que je commence à faire de l'humour. Ça fait 4 ans, je sais pas. Et j'allais au bordel souvent. Tu sais, là, je suis assis, ça donne un open mic. Il y a un gars chaud raide, vraiment chaud raide. Un peu gay, gars. Il se met du rouge à lèvres avant de commencer. Pas grave qu'il est gay, c'est pas le sujet, c'est juste pour t'aider à peut-être retracer le gars. Et puis, il est sur stage, puis quand il embarque, il fait juste dire de la shit sur toi. Il te connaît pas.
Ouais, c'est toi-là.
Il te connaît pas. Je pense qu'il te connaît pas. Là. C'est moi dans mon cas.
En fait, ce qui est arrivé, ce gars-là, c'est qu'il a fait l'open mic vraiment 3 mois avant. Il s'était pété à gueule, puis moi, je l'avais ramassé, parce que j'animais l'open mic, je roastais tout le temps le monde qui se plantait.
Ouais.
Puis le gars, il l'a pas pris.
Ah, okay.
Fait que c'est pour ça qu'il est venu, puis qu'il a décidé de faire un numéro sur moi. Mais le roast, c'est un art qui est quand même subtil.
Qu'il l'avait pas, lui.
Puis lui, il l'avait pas. Non. Fait que c'était juste méchant et gratuit. Mais moi, ça m'affecte pas, là.
Quand t'as rembarqué, il t'a
ramassé.
Puis là, c'était. Je jouissais de le voir péter de même. Je connaissais pas l'histoire. Mais tu l'avais ramassé d'une belle façon. Puis j'ai été juste surpris de voir le gars rester assis là. Il est pas sorti. Il est resté pendant que tu le roastais parce que. Moi, je serais sorti en tabarnouche parce qu'il s'était planté royalement. Puis, mais en tout cas, c'est là que j'avais découvert.
Je me rappelle d'une joke que j'avais dit, vu que le gars est homosexuel, j'avais dit starting at the bottom, still the bottom.
Ça, c'était vraiment, c'était magique. Cette bout-là, t'as
vraiment magique. Oh, j'avais eu du fun.
Puis, ben, c'est ça, des fois, c'est une mauvaise idée. Si tu vas faire un open mic, prends, niaise pas les animateurs.
Ben, tu peux le faire. Faut que ça soit fait de bonne guerre.
Mais lui, c'était pas de bonne guerre.
Ah non, lui, c'était une vengeance, mais la. Tu sais, ça peut marcher. Moi, souvent, je roast les animateurs, mais tu sais, c'est fait avec amour, puis le monde comprenne que, tu sais, c'est roaster, ça, c'est un art de. Faut que tu sois méchant, mais que le monde comprenne que c'est de la gentillesse. C'est subtil.
C'est la subtilité par rapport à ça. Puis, donc, c'est ça tes projets. T'as-tu d'autres projets à Cali ou pour le temps des fêtes qui s'en vient, t'as-tu.
CharlesDeschamps.com, mon show, je le fais au bordel le 16 décembre. Je sais pas si l'épisode passe avant.
Oui.
Sinon, je le fais un peu par. Je le fais comme sporadiquement, je m'amuse avec ce show-là. Il n'y a pas de titre de travail, c'est vraiment je fais ma meilleure heure du moment puis le stock qui me tente le plus de faire du moment. Puis je m'amuse avec ça.
Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode numéro 2 du podcast Envoyez donc. Mon nom est Sylvain D. Desjardins et mon invité était Charles Deschamps. On vous invite à vous abonner à la page et à donner vos commentaires. C'est un rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Bonne semaine tout le monde.